Chers auditeurs, dans son titre même, la première instruction pastorale de Monseigneur Loison révélait les préoccupations immédiates du nouvel évêque de Bayonne, les fêtes, les sonneries de cloches et la réunion des ecclésiastiques, ça voulait dire l'union des ecclésiastiques. Après avoir énoncé et commenté brièvement les dispositions prises sur ces trois points, Monseigneur Loison évoquait l'action du premier consul, Napoléon Bonaparte, qui venait donc de signer le concordat avec le pape. Cette action, il la comparait à celle de l'Esprit-Saint, qui, dans Ézéchiel, redonnait vie aux ossements desséchés. L'évêque écrivait « La France n'offrait plus que ce vaste champ couvert de corps inanimés, d'ossements épars que nous dépeint le prophète. Un génie vivificateur paraît. Son souffle ranime ses corps, rassemble ses ossements épars, en fait des corps organisés, les rallie à un chef que la Providence suscite pour notre bonheur. Il veut asseoir la félicité de sa patrie sur l'antique religion de nos pères. Il veut resserrer par les liens d'une morale pure et sainte, comme son auteur, ce que le gouvernement a rapproché avec tant de succès depuis le jour mémorable du 18 Brumaire. » Il est permis de ne pas mettre en doute la sincérité de Monseigneur Loison dans l'expression dithyrambique de sa reconnaissance. Seul peut-être la libération de 1944-45 peut nous faire comprendre ce que fut pour les Français de 1801 la fin de la Révolution et en particulier la signature du Concordat. Aussi, les évêques ne vont-ils pas se montrer avares ni de louanges ni de manifestations de gratitude à l'égard du premier consul. Leur mandement rivalise de zèle et, pour varier les thèmes laudatifs, ils empruntent à qui mieux les clichés de Constantin, de Cyrus, de Zorobabel qu'ils vont lui appliquer. Monseigneur Loison n'est donc pas une exception quand, comparant Bonaparte à Cyrus, il fait parler Dieu lui-même. Comme à Cyrus, vous lui avez dit « Je vous ai choisi pour relever en France mes autels renversés par l'impiété. Partez, quittez une terre étrangère, repassez les mers. Vous n'avez rien à craindre de vos ennemis, je vous protégerai. » Et Monseigneur Loison emprunte les accents de Bossuet évoquant la bataille de Rocroi. À cette voix, à laquelle rien ne résiste, le nouveau Cyrus s'embarque, traverse les mers. Il est venu dans la capitale. L'ennemi le croit encore en Égypte. Il paraît au milieu de nous et nos mots disparaissent. Monseigneur Loison aura encore bien souvent l'occasion d'entonner le dithyrambe, car le premier consul, et plus tard l'empereur, va s'adresser à ses évêques pour leur recommander une entreprise militaire ou leur demander des prières d'action de grâce pour ses victoires. Ainsi, quand la guerre est déclarée à l'Angleterre, Bonaparte écrit aux évêques pour leur expliquer sa décision. La mauvaise foi du roi d'Angleterre, la nécessité d'une juste défense, tout nous oblige à prendre les armes. Et ils comptent bien sur le soutien de leurs prières. Sans réticence aucune, Monseigneur Loison entre dans les vues du premier consul et il s'adresse à ses diocésains. Comme notre Maccabée, il sollicite nos efforts et notre zèle pour la cause de la patrie. Il nous appelle au pied des autels pour y offrir, avec l'encens de nos prières, le prix de la victime sainte immolée pour tous les hommes. Et puis, c'est l'appel au courage de tous. Soyez braves, disait autrefois Ézéchias aux Israélites menacés d'une invasion par les Assyriens. Nos forces sont grandes, notre cause est juste. Le Dieu des armées disposera tout en notre faveur. Enfin, c'est l'appel aux parents et aux jeunes. Pères et mères, dites à vos enfants qu'ils entrent dans le chemin de la gloire, que comme soldats citoyens, ils doivent combattre avec bravoure, que comme soldats chrétiens, ils doivent, à l'exemple des Maccabées, mourir s'il le faut pour les lois et pour la patrie. Partez donc, brave jeunesse, que les liens du sang ne vous retiennent point. La victoire vous attend. Partez, l'honneur vous le commande, la religion vous l'ordonne. Dans le mandement du carême de 1804, c'est le rappel pressant adressé aux prêtres de l'obligation qu'ils ont d'instruire les fidèles sur leurs devoirs patriotiques. Répétez-leur sans cesse que le Dieu des armées plane sur cet empire et le nouveau Cyrus, qui rétablit ses temples et relève ses autels. Rassemblons-nous autour de ce héros au nom de notre religion sainte et du patriotisme. Répétons-leur sans cesse que toute désobéissance est un crime aux yeux de Dieu. Dites aux mères que, comme celle des Maccabées, elles doivent envoyer leurs enfants au combat, que c'est le combat du Seigneur qu'ils livreront. On sert Dieu quand on sert sa patrie dans une guerre juste, et y en a-t-il une plus juste que celle que nous soutenons? On peut penser que Monseigneur Loison en faisait trop. Mais le premier consul n'en attendait pas moins de ses préfets violets, comme on appelait malicieusement les évêques. La vie liturgique elle-même portera bientôt la trace de cette admiration, sinon de cette adoration envers le premier consul. Un mandement que Mgr Loison publie le 6 août 1803 fait de l'Assomption un jour de prière publique et d'action de grâce pour le rétablissement de la religion et les autres bienfaits dont il a plu à Dieu de combler la France. Un peu plus tard, le 15 août, deviendra en plus la Saint-Napoléon. Mgr Loison aura l'occasion de témoigner directement ses sentiments à l'égard de Bonaparte devenu empereur. Au début de janvier 1808, fut annoncée l'arrivée à Bayonne de l'empereur en personne. Il venait y régler les affaires d'Espagne. Le 1er mars 1808, Mgr Loison publie un mandement pour annoncer l'arrivée de celui qu'il appelle encore le nouveau Cyrus, le nouveau Charlemagne. « Bientôt, écrit-il, il sera au milieu de vous. Il s'offrira à tous les regards, et vous pourrez envisager de près le libérateur qui vous a arraché au fureur de la dévorante anarchie, l'envoyé du Seigneur qui vous a rendu votre religion et vos mœurs. » Et puis, ce n'est pas le guerrier que va évoquer cette fois Mgr Loison, mais le monarque secourable aux pauvres. Ces pauvres qu'il a confiés à sa mère, la princesse Laetitia. « Le plus grand monarque du monde, s'écrie Mgr Loison, a adopté pour ses frères tous les malheureux de son vaste empire. C'est sa mère qu'il leur a donné pour mère. » Le jour de l'arrivée de l'empereur, Mgr Loison était là parmi les personnalités. C'était le Jeudi Saint. On avait sans doute retardé le départ des cloches pour Rome, car elles sonnèrent à toute volée, du moins celles qui avaient échappé à la fonte. Mgr Loison tint à son tour un discours de circonstance qu'il termina par ces mots « Le pasteur des Landes, celui des Pyrénées, tous les fidèles qui composent ce vaste diocèse sont fiers d'être français et surtout de vous appartenir. Ils sont heureux de posséder leur empereur. Après le séjour de Napoléon à Bayonne, et surtout après 1809, l'enthousiasme de Monseigneur Loison connaît un déclin. On peut penser que les événements de Rome cette année-là et la captivité de Pie VII avaient refroidi la ferveur de Monseigneur Loison, comme d'ailleurs celle des évêques de France. Bientôt, ce sera pratiquement le silence. À la fin de la campagne de Russie, n'incite guère à l'enthousiasme. Le 14 avril 1814, l'évêque de Bayonne reprend la plume pour ordonner un Te Deum. Mais il s'agit maintenant de rendre grâce à Dieu pour le rétablissement de Louis XVIII sur le trône de France. En se réjouissant de pouvoir désormais s'exprimer en toute liberté dans son mandement, Monseigneur Loison conclut « Désormais, vous n'y trouverez que des images de paix et d'espérance. Nos chants y seront l'expression de nos principes religieux et un nouveau gage consacré devant le Seigneur de notre amour, de notre fidélité pour l'antique dynastie de nos souverains, et nous y répéterons avec l'accent de la vérité ce cri de joie, ce cri si cher à nos aïeux, vive le roi, vive le roi. » La prochaine fois, nous aborderons l'action proprement pastorale de Monseigneur Loison. La prochaine fois, nous aborderons l'action proprement pastorale de Monseigneur Loison.